Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Et vous le savez sans doute, plusieurs fêtes clandestines réunissant jusqu'à 500 convives ont été repérées par les autorités ce week-end à Marseille, Strasbourg, Nantes. Une fête avec 500 personnes a été évacuée dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Marseille dans le cadre d'une patrouille Covid et une enquête ouverte après la découverte de stupéfiants d'ailleurs sur les lieux. Nous sommes donc avec Alexandre, vous avez 28 ans, c'est important
bonjour.
De signaler. Rebonjour, vous êtes comptable et quelle est la dernière fête sauvage ou clandestine que vous avez faite?
Eh bien, pas plus tard que samedi dernier, bah, avant-hier. Voilà.
Et vous étiez
alors,
où
ça, je ne vais pas... ça, vous comprenez, je vais
ah pas oui, vous pouvez pas le dire.
Oui, je ne vais pas non plus mettre en difficulté d'autres personnes. Oui, si vous voulez, en fait, si on ne vous donne pas la liberté, d'une manière générale, il faut la prendre. Et c'est en réponse... Déjà, il faut continuer à vivre. En fait, je pars du principe qu'il faut continuer à vivre. Et aller dans ces fêtes clandestines qui, bon, en fait, qui ont toujours existé, qui ont toujours été clandestines, en fait. C'est juste que les gens s'en aperçoivent maintenant, mais elles ont toujours existé. C'est, si vous voulez, un peu une réponse à un monde ou à un régime, ou à une époque, en fait, où l'interdit est devenu la norme et la liberté l'exception, mais pour tout. Imaginez, si on prend un petit peu de hauteur, il faut une attestation pour sortir de chez soi, mais donc, en fait, c'est un monde de fous. En vrai, c'est un monde de fous. On est chez les fous, quoi. Il faut une attestation pour sortir de chez soi. C'est, voilà.
Vous étiez combien samedi, Alexandre?
Bon, samedi, on était moins nombreux que celle que vous disiez, on était peut-être 150. Mais, voilà.
Bon, vous aviez, quelle tranche d'âge?
Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on rencontre beaucoup de. Tout type de personnes, tout type de. C'est un peu le dernier endroit où les gens sont encore heureux, quoi. Il y a beaucoup de bienveillance, des gens de tous horizons, de toutes tendances politiques. Si vous voulez, il y a des gens d'extrême droite, d'extrême gauche.
Non, mais quelle tranche d'âge? C'est plutôt jeune, j'imagine.
Oui. Alors, c'est bon. En général moins de 35 ans.
Donc, c'était dans un quoi? Dans un. C'est pas dans un appartement, par définition. C'est dans dans un lieu sans doute un peu isolé.
Dans un lieu très isolé, voilà.
Très isolé. Aucun contrôle.
Non, il n'y a pas eu de contrôle.
Donc, parce que ce lieu est isolé, il est en pleine campagne, pourquoi pas?
C'est souvent en pleine campagne, mais de toute façon, ça a toujours été en pleine campagne, ça a toujours été dans des lieux isolés, et puis parfois pas très loin de la ville. Hein, mais,
pas de masque, évidemment, pas de gestes barrières.
Il y a des... le principe, c'est la liberté, donc la liberté de porter un masque ou de ne pas en porter. Les gestes barrières, moi, ce que je fais à titre personnel, c'est de me tester régulièrement.
D'accord.
Par exemple, là, pas plus tard que ce matin, j'ai pris un rendez-vous pour aller me faire tester demain et pour aller me faire tester.
Vous avez eu raison, après samedi. Alors là, c'est une fête, c'est pas une rêve, c'est une fête. C'est quoi comme type?
C'est plutôt rêve parti.
Ah ouais, plutôt rêve parti quand même. Donc il y a aussi sans doute un peu d'alcool et de stupéfiants.
Ça a toujours existé, si vous voulez.
Oui, c'est pas le problème. Moi, je vous assure, je donne pas de leçons et je juge pas. Ouais. J'essaye simplement d'avoir les infos.
Faut continuer à vivre.
J'ai pas de rapport moral. Ouais. Déjà, je trouve que vous témoignez. Ce qui m'intéresse, c'est votre témoignage. Bon.
Je comprends. Oui, alors évidemment, il y a probablement, mais comme il y a des stupéfiants, comme il peut y avoir de l'alcool et des stupéfiants en boîte de nuit, comme il peut y avoir.
Mais vous dites que vous en avez besoin pour relâcher la pression. Ça veut dire quoi?
C'est exactement ça. On est dans, si vous voulez, l'époque aujourd'hui veut que tout le monde soit plus ou moins terrorisé, cloîtré chez soi. On nous parle d'interdit. En réalité, quand on entend toute la journée, c'est une liste de choses qui sont interdites. On reste chez soi, on voit personne, on ne découvre aucune nouvelle personne en ce moment. Si vous voulez, faut relâcher la pression, faut aussi accepter de vivre et accepter de se faire plaisir. Faut s'autoriser à être heureux, en fait. Faut s'autoriser à
Mais convenons que même moi qui suis souvent, j'ai envie de rouvrir les restos, les bars, pourquoi pas, je suis assez offensif sur ces thèmes-là, mais convenons que 150 personnes ensemble, c'est déraisonnable sur le plan sanitaire et médical. Et c'est pas un jugement moral, une nouvelle fois, que je donne là. C'est factuel.
J'entends. À ma connaissance, il n'y a pas eu de cluster suite à ces rêves ou ces fêtes, quoi. Voilà. et on nous en parle beaucoup, mais en réalité, c'est déjà des fêtes qui sont dans des endroits ouverts, dans des endroits, c'est pas dans des endroits clos. Contrairement, par exemple, à si 300 personnes se réunissent dans une boîte de nuit, c'est à l'air libre.
Ah, c'était à l'air libre là.
Ah oui, c'est à l'air libre. Oui, dans tous les cas, c'est à l'air libre.
Non, mais il faisait pas eu chaud.
Je vous confirme, il fait frais, mais bon, c'est...
Ah, c'était à l'air libre. Ah ouais, mais ça, faut tout lui dire. Je pensais que c'était dans un endroit quand même un hangar, je ne sais pas. Alexandre, vous allez rester avec nous. Vous savez, vous acceptez le jeu de la contradiction.
Bien sûr, oui. Bon, là, j'imagine que...
vous imaginez peut-être, je n'en sais rien. Donc, je pense que des auditeurs vont peut-être engager la conversation avec vous et peut-être ne seront-ils pas d'accord. Mais d'abord, je remercie Alexandre, hein, franchement. Je ne sais même pas si c'est votre vrai prénom, d'ailleurs, Alexandre, mais peu importe. En tout cas, vous bossez d'ailleurs aujourd'hui, hein?
Oui, je suis en télétravail.
Ouais, c'est ça qui est.
Mon chat d'un côté, et voilà.
Non, mais c'est. Voilà, vous êtes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous ne faites pas la fête toujours et tout le temps. Hein. C'est le week-end.
Non. On a une vie.
Exactement. 13h07, Greg Karanni. Mais il est prudent, Greg, lui. Il n'irait pas dans une rêve partie comme ça le samedi soir avec son petit Pio.
C'est exact. Mais même hors confinement, d'ailleurs.
Ah, vous n'avez pas les rêves parties?
Non, je sors peu, je danse mal, à vrai dire.
Mais la rêve partie, on danse séparément.
Faut demander à Alexandre.
Bon, Alexandre,
voilà, c'est pas grave.
Exactement. Bon,
je pense qu'il vaut mieux que je vous évite ça.
Laurent Tessier est là également. Alors, il y avait d'autres soirées. Je ne sais pas si Laurent était en Belgique ce week-end, mais il y avait une vingtaine de personnes, en grande majorité des Français d'ailleurs, qui ont été interpellés lors d'une fête clandestine également dans le village de Saint-Marc, au sud de la Belgique, près de la frontière française, dans la nuit de samedi à dimanche. Et figurez-vous que c'était une partie fine.
Ah, c'était pas une rêve, d'accord.
Comme on disait jadis. Ah, bah, c'était peut-être un rêve. Peut-être une sorte de partie fine à l'occasion d'un anniversaire. C'est ça qui m'a amusé.
Oui,
chérie, c'est ton
Pascal.
Anniversaire. Viens, je vais te présenter des gens. Ça m'a amusé.
Vous êtes resté à Paris ce week-end?
Oui, mais chacun fête l'anniversaire de son compagnon ou de son épouse comme il le souhaite. Manifestement, là c'était open bar, hein, d'une certaine manière. 13h08, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Les fêtes clandestines en France, mais aussi en Belgique. On en parle avec Alexandre qui a participé à une rêve partie et les auditeurs vont pouvoir dialoguer avec lui. Pour le moment, c'est Laurent Tessier. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Réaction justement à l'instant au témoignage d'Alexandre. Réaction sur nos réseaux sociaux. Je ne comprends pas ces arguments, écrit Karine. C'est honteux de participer à des soirées clandestines. Il met en danger tous les gens qu'il fréquente. Message aussi de Nathalie à l'instant. Vous pouvez bien vous passer de soirée quelques mois quand même. Quelle inconscience. Mireille demande des sanctions plus sévères. Il est temps de taper du poing sur la table. Pour Philippe, la meilleure solution, c'est de rouvrir les discothèques. On éviterait ces fêtes clandestines. Et merci Alexandre pour votre témoignage, lance Fred. Oui, j'ai 32 ans. Nous avons besoin de nous défouler.
Mais non, mais c'était très, très intéressant. D'ailleurs, il va rester avec nous, Alexandre. Daniel est là, qui est un ancien gendarme, qui habite Puteaux et qui a écouté Alexandre. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Pascal. Merci d'avoir retenu mon témoignage. Effectivement, alors, Alexandre, je ne sais pas s'il m'écoute, mais en attendant... Bonjour, Alexandre. Bah, écoute, je suis gendarme et vous êtes apparemment... un danseur nocturne et vous enfreignez les lois. Moi, je respecte les lois. Je reçois des ordres. Je fais partie du ministère de la Défense pour faire respecter les lois, les textes et les règlements. Je me trouve en face de vous. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous me tapez dessus, vous m'envoyez des cailloux ou alors vous me rentrez dedans ou vous acceptez les 135 euros ou alors les travaux d'intérêt généraux. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien avoir votre avis.
Alors, ça n'a strictement rien à voir. Si vous voulez, nous, on n'est pas dans une position victimaire ou une position de revendication. Non, pas du tout. On continue juste de vivre. Si un gendarme vient me verbaliser, je paye les 135 euros.
Ah,
si vous voulez,
bravo.
On va pas
excellent.
C'est juste que on n'est pas, on n'est pas des racailles de quartier, quoi.
Non, vous n'êtes pas des délinquants, mais en tous les cas, vous enfreignez la loi et vous êtes 500. Donc, apparemment, vous, les 499 votes, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Mais en tout cas,
si vous voulez, c'est déjà arrivé. J'ai déjà été juste avant le confinement à une rêve comme ça qui s'est terminée parce que les gendarmes sont arrivés.
Oui.
On est juste partis, quoi. Et par contre, au lieu d'être à l'extérieur tous quand même dans un endroit assez à l'air libre, et très très grand. Et bien finalement, on s'est retrouvés tous pour des afters dans des appartements où on était tous entre quatre murs et où le risque était décuplé.
Voilà. Très bien, mais très bien. Écoutez, Alexandre, tout à l'heure, vous parliez de liberté. Liberté, ça veut dire que vous êtes en droit d'enfreindre les lois. Ça veut dire que si la route est limitée à 80, vous avez le droit de rouler à 150. La liberté, vous parliez de liberté. Est-ce que la liberté, elle commence où, la liberté et le respect des autres?
Il y a liberté et liberté. C'est-à-dire que
je connais qu'une loi.
Commencer à interdire des choses simples et des choses, si vous voulez, il y a 10 fois moins de risques de se faire contaminer lors d'une fête de ce type que dans le métro, et vous le savez très bien. Donc après, moi, je suis
dans le métro, on a des masques, si vous me permettez.
Bah oui,
Alexandre, a priori, dans le métro, on a des masques. Mais moi, je ne veux pas être dans le jugement comme les Daniel, mais la discussion est intéressante. Continuez, Alexandre.
Oui. Si vous voulez, non, on n'est vraiment pas dans une position où si les gendarmes arrivent, on va se mettre à caillasser, parce que c'est pas du tout le type de personne qui est dans ce type de soirée.
Écoutez, je suis gendarme, vous êtes, comment dirais-je, un danseur de nocturne, c'est très bien, mais on n'a pas du tout les mêmes activités nocturnes.
Mmh. Ah bah ça, oui, j'imagine bien.
Les vôtres paraissent calmes, sans doute, Daniel.
Pardon ?
Je dis, vos activités nocturnes sont calmes, sans doute, Daniel, vous sortez, vous ne faites pas de rêve parti. Je ne rentre pas dans le cadre de votre vie privée, bien sûr, mais bon, tout ça, j'imagine, vous sortez moins, on danse moins quand on a, vous avez 74 ans, donc ce n'est pas l'âge où, a priori, on va le plus en boîte de nuit.
C'est certain, mais le fait d'avoir occupé cette fonction et que j'ai quand même travaillé souvent la nuit, ça n'a pas été facile. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu avoir des moyens et peut-être des ordres, peut-être mieux posé pour pouvoir agir en même temps, parce que c'est vrai que si tous ces
il y a quand même une chose, et je vous interromps, Daniel, c'est que ils étaient en plein air, nos amis de la rêve partie.
Oui, alors par contre, Pascal, je me permets de vous couper.
Je vous en prie.
Ce que je ne comprends pas, c'est que 500 personnes arrivent.
C'était pas 500 d'ailleurs.
Avec des réseaux sociaux. Alors qu'en gendarmerie, on est super équipé en termes d'informatique et de technologie. Et que personne n'arrive à le savoir. Je ne comprends pas, je me permets de mettre ça. Bah
Alexandre, par exemple, alors l'organisation, Alexandre, quand est-ce que vous êtes prévenu de l'endroit où a lieu cette rêve partie?
Honnêtement, on est au tout dernier moment, mais par contre, je n'en dirai pas plus.
Non, mais voilà. Je suis d'accord avec vous, qu'est-ce que vous appelez au tout dernier moment? Vous êtes arrivé à quelle heure, par exemple, samedi soir, sur place?
Une heure avant, c'est une heure avant.
D'accord, et vous êtes arrivé à quelle heure?
Je suis arrivé, vers 20h.
20h. Voilà. Et vous êtes reparti à quelle heure?
Je suis reparti au petit matin. Voilà.
Et alors, tout le dimanche hier, vous avez dormi?
J'ai dormi jusqu'à 15h, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est vrai que c'est marrant, parce que c'est quelque chose que je me demande aussi. Comment ça se fait qu'on réussit à faire ça?
Mais parce que vous êtes sur une liste, comment vous recevez le message?
Honnêtement, je veux pas mettre en difficulté des
gens. D'accord. Je comprends, Alexandre. Voilà, on va marquer une pause de toute façon. Daniel reste là. Il y aura Marc également. Alors Marc, c'est un policier en activité. Daniel, c'est un ancien gendarme et il va nous expliquer comment il peut intervenir. Mais c'est passionnant, grâce à Alexandre, ce témoignage qui est sympathique en plus. On l'entend, Alexandre. Voilà, c'est sympathique en plus. Il n'est pas dans l'opposition, en tout cas aux forces de l'ordre, mais effectivement il fait quelque chose qui est répréhensible. 13h18, la pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et nous continuons avec Alexandre. Alors Alexandre, je le rappelle, il est comptable. Samedi soir, il arrive à 8h du soir, il repart au petit matin, rêve parti. Ils étaient 150, il est prévenu une heure avant. Coin isolé, dans la campagne, aucun contrôle. Et Daniel, qui était un ancien gendarme, lui disait à l'instant que ça ne se fait pas. Et Marc est policier. Et ça, c'est intéressant parce que vous êtes policier en action. Donc, est-ce que vous êtes surpris d'abord d'entendre le témoignage d'Alexandre? Bonjour Marc.
Oui, bonjour Pascal. Surpris, non, parce que ce sont quand même des choses auxquelles malheureusement on est confronté assez souvent dans l'exercice de mes fonctions. Mais c'est surtout en fait les motivations qui moi me surprennent beaucoup. Alexandre, au demeurant très sympathique, hein, nous parle de liberté. Mais la liberté, en fait, on peut pas la mettre à toutes les sauces, on peut pas la prendre et puis en faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. Parce que j'ai très bien aimé, en fait, l'exemple de mon ancien collègue gendarme qui nous a dit la vitesse, oui, en ce moment, c'est vrai que sur les autoroutes, il y a très très peu de monde et tout. Moi, ma liberté, ça serait aussi de pouvoir rouler à 150 sur l'autoroute. Il y a personne et tout. Je mets personne en danger et tout. Donc, au nom de ma liberté d'aller plus vite, je pourrais faire ça. Je trouve que c'est très, 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 très facile, en fait, de mettre la, de se plaindre, en fait, de la liberté. Faut pas oublier qu'on est.
Alexandre vous répond.
Ouais. Ben, justement, on ne se plaint pas. Justement, on ne se plaint pas parce que on fait. C'est-à-dire que, si demain je roule à 150 km/h sur l'autoroute, et ben si je me fais avoir, j'assume, je paye mon amende. Là, c'est la même chose. Et d'ailleurs, les organisateurs, c'est quelque part un peu la même chose, les organisateurs de ce type de soirée, ils organisent, mais ils savent les risques qu'ils prennent, ils se font prendre, et ben ils assument. Donc on ne se plaint pas, en fait, en réalité. On n'est pas dans une position.
Réponse de Marc.
Mais moi, je pense, en fait, que c'est que votre. Que la façon dans laquelle vous pensez, en fait, elle est fausse. Parce que vous dites que les organisateurs, ils assument. Ils assument absolument rien. Admettons que sur votre fête, vous avez 150 personnes. Vous êtes en plein air, tout le monde s'amuse, tout le monde va bien. Vous ne pouvez absolument pas déterminer qu'il y a 150 personnes qui n'ont pas la Covid-19. Imaginons qu'il y ait parmi vos participants quelqu'un qui contamine une autre personne et que cette personne-là, malheureusement, décède. Vous êtes quoi? Vous pensez que les gens qui ont fait ça, ils vont assumer en fait le fait d'avoir fait ça et qui vont avoir mis la vie d'autrui en danger?
Quelque chose que je vous ai pas dit parce que j'y pense maintenant. Faut montrer quand même un test PCR de moins de 72 heures négatif.
Voilà. Ah, mais vous ne dites pas tout. C'est des rockers quand même ou des gens qui font des rêves, mais un peu prudent. Alors c'est vrai que 72 heures, a priori, faudrait 24 heures. C'est quand même une précaution. Alors ça, je ne savais pas ça. Donc c'est pas complètement, si j'ose dire, c'est évidemment répréhensible. Mais c'est d'ailleurs marrant que même entre vous, les rêves. Parce qu'au fond, vous faites ça pourquoi ? Vous faites ça pour vous, d'une certaine manière. Là, vous comprenez bien le danger qui existe.
Oui, mais si vous voulez, le danger, il est le danger entre parcourir 800 km sur l'autoroute et le danger pour aller dans une rave party. Le plus dangereux, c'est de parcourir les 800 km sur l'autoroute. Oui, il y a un moment.
Ça, j'en sais rien, Alexandre. Personne n'en sait rien, d'ailleurs. Mais le problème de la liberté, j'ai trouvé qu'il était très bien posé par Daniel, effectivement. Parce que, et ça, c'est un problème de philosophie. Vous avez 4 heures, comme dirait l'autre. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut dans une société bien organisée. On n'est pas libre, je ne suis pas libre de fumer, par exemple, dans un restaurant. Donc j'entrave ma liberté. Je ne suis pas libre de rouler à 150 à l'heure, bien évidemment. Donc ce vivre ensemble réclame des règles. Alors, est-ce que la règle est trop forte de ne pas pouvoir faire des soirées à 6 ou à 8 sans doute, mais à 150, convenons que c'est pas raisonnable d'être à 150, Alexandre.
Mais Pascal, jusqu'à quel point on peut aussi aller dans la privation de liberté ? En réalité,
elle est momentanée d'abord.
Elle est momentanée, mais je suis pas certain qu'elle soit momentanée. Vous savez, l'exemple de l'attestation, je suis persuadé que c'est quelque chose qu'on va revoir dans les années prochaines. Dès qu'on enlève une liberté, vous savez que c'est très compliqué de la récupérer.
Je pense pas. Les restaurants vont rouvrir, et puis c'est l'intérêt de personne. Alors, en revanche, Daniel voulait redire un mot, l'ancien gendarme, parce que c'est Greg Caranoni me dit que Daniel écoutait, il était chaud bouillant, comme on dit. Daniel, c'est à vous.
Oui, Alexandre, écoutez, vous êtes en train de déstabiliser complètement et toute la philosophie que disait Pascal à l'instant sur le côté de liberté. C'est absolument, vous avez la vôtre, mais en tous les cas, je souhaite en tout cas que vous n'ayez pas d'accident déjà et que vous passiez au-delà justement de cette liberté de rouler plus vite que les autres et d'éviter évidemment de rentrer dans une famille avec deux enfants. Ça, c'est votre problème.
Je donnais un exemple.
Par contre, je resterai donc ferme sur les prix. Ça veut dire que vous êtes hors règlement, hors texte de loi. Donc à partir de là, on doit vous punir. Si vous sortez de là, on doit vous punir. Et comme sanction, ben, tout simplement un travail tout gentiment d'intérêt général. Vous nettoyez déjà la salle. Vous, comment dirais-je, vous êtes comment juste pénalisé pour ça, pour moi, avoir une sanction. Et par contre, au-delà de ça, le deuxième aspect, c'est peut-être au niveau... Alors là, peut-être que vous allez me dire, ah, enfin, Daniel est très gentil, c'est que j'y ai pensé, c'est qu'il faudrait peut-être mettre à disposition, en prenant toutes les mesures nécessaires, c'est ce que réclame d'ailleurs le reportage que vous avez fait là ce matin à RTL sur les propriétaires de boîtes, à savoir de mettre à la disposition des jeunes pour qu'ils puissent vraiment s'éclater et s'amuser avec toutes les règles vraiment sévères.
Un protocole, effectivement. Alors, merci Daniel. Alors, Alexandre, il nous donne au compte-gouttes les informations. Peut-être que dans 5 minutes, il va nous dire qu'en fait, tout le monde danse à 10 mètres l'un de l'autre. On a eu le test PCR. Mais il y a Anne. Alors, vous avez quand même un supporter, en l'occurrence une supportrice.
Merci.
C'est Anne qui est dans le doubs. On l'écoute tout de suite, Greg ? Non. Alors, ça sera la pub d'abord. Et puis, vous savez que 13h30, c'est notre rendez-vous de Noël. Donc, Alexandre reste avec nous. Anne aussi, qui veut le supporter. Alors, les fêtes sauvages, ça fait parler. Les fêtes clandestines, ça fait parler. Donc, vous pouvez, évidemment, nous en parler jusqu'à 14h30. Mais il y aura cet intermède de Noël, comme tous les jours, à 13h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Tous les jours depuis le 1er décembre à 13h30, nous avons un auditeur ou une auditrice qui évoque son Noël ou à venir ou passé. Et puis on choisit une chanson de Noël et puis on a un cadeau que Greg Caradoni a choisi dans sa hotte. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal.
C'est un Noël. Je vais très très bien. Et vous ?
Ça va parfaitement, merci.
Bon, Noël, un souvenir de votre Noël à vous, si j'ose dire ?
Alors, moi, j'ai un souvenir. Je ne sais pas je dois remercier mon oncle pour ça, pour le corps que j'ai aujourd'hui. Mais c'est à cause d'un Noël que je ne mange plus de chocolat. Parce que quand j'étais enfant, je ne sais pas si ça existe encore, dans les papillotes, il y avait des pétards. Et pour avoir ce pétard, mon oncle me forçait à manger les papillotes. Ça m'a rendu tellement malade. Je n'ai plus jamais mangé de chocolat de ma vie.
Ah bah c'est une bonne manière, effectivement, de stopper son goût pour le chocolat, si d'avoir une indigestion au chocolat.
Et voilà, exactement.
Bon, et ça, c'était quand, Cédric ?
Oh là là, mais j'étais enfant, je devais avoir 6 ou 7 ans.
Il était curieux, votre oncle, quand même, de vous obliger à manger des chocolats. Pourquoi il voulait les pétards, votre oncle ?
Après, non, mais c'est moi qui voulais les pétards.
Ah oui, c'est lui qui...
Et lui, il ne voulait pas me les donner. La seule façon pour moi de les avoir, c'était de manger ses papillotes.
Bien sûr, bien sûr.
Et du coup, j'ai eu la mauvaise idée de manger ses papillotes, finalement. Donc, ça m'a rendu malade au possible. Et depuis, je ne mange plus de chocolat. Alors,
bon, sais pas si cette année, vous êtes combien autour de la table ?
Alors cette année, alors le soir même de Noël, on est en famille avec ma femme et mes deux enfants.
Donc vous serez quatre ?
On sera quatre.
Pas de parents, de grands-parents ?
Si, alors on fait ça sur les deux, trois jours qui suivent, mais on devait être tous ensemble, on va être une vingtaine plus une dizaine d'enfants. Et finalement, on fait ça en deux fois pour justement pas être tous ensemble, pour respecter...
L'année dernière, vous étiez 20 ?
Ah, l'année dernière, on était nombreux, on était très très nombreux.
Donc toutes les familles... Toutes les familles, au fond, vont adopter le même protocole, en tout cas beaucoup. Bon, merci Cédric. Alors, la chanson que vous avez choisie, la chanson de Noël aujourd'hui.
Alors ça aussi, c'est bien particulier, parce que moi, ma chanson de Noël, c'est Petit Papa Noël, mais pas version Tino Rossi, version Les Schtroumpfs. Puisque quand j'étais enfant, ma grand-mère me le chantait, et elle avait une voix un peu nasillarde, qui fait qu'elle avait une voix... J'avais l'impression que c'était Les Schtroumpfs qui
ça
me chantaient
la chanson. Votre enfance, en tout cas.
Non, mais j'adorais. C'était juste magique, en fait.
Bien sûr. Mais entre l'oncle qui vous faisait bouffer du chocolat et la grand-mère qui vous faisait petit Noël en schtroumpf.
Génial.
Écoutons.
Fermez les paupières. Font une dernière prière.
C'est petit Noël en schtroumpf.
Petit papa.
Que c'était beau.
Quand tu descendras du ciel,
ah,
Je trouve qu'avec nos masques bleus, on a l'air de schtroumpf un peu. Je regarde Laurent Tessier et Greg Cardoni. Mais je connaissais pas ça, ce petit papa Noël en schtroumpf. C'est issu de quoi? D'un dessin animé? D'un
Oui, il y a les schtroumpfs, les dessins animés. Donc c'est un peu ma génération parce que j'ai 40 ans. Mmh. Et à l'époque, c'est vrai que, bon, bah, aujourd'hui, on a des albums, etc., de chansons de Noël. Mais à l'époque, ils sortaient des 45 tours et des 33 tours avec les schtroumpfs chantent Noël. En fait, il y avait différentes chansons, dont Ding Dong et Petit Papa Noël, etc. Et voilà, c'était juste magique.
Eh ben, très bien, Cédric, vous avez gagné un cadeau. Et croyez-moi, les cadeaux de Monsieur Caranoni, ce sont des beaux cadeaux.
Alors, il y a même deux cadeaux aujourd'hui,
pourquoi
cher Cédric. Deux, bah parce que pourquoi pas, attendez.
Bah, attendez, c'est pas normal, les autres ont eu un cadeau.
Ouais, mais j'ai fait rire tout le monde avec mes schtroumpfs.
C'est vrai.
Alors, attendez, Cédric, parce que le deuxième cadeau, je pense que je vais mettre un peu les pieds dedans. Mais laissez-moi vous donner d'abord le premier cadeau. Le premier, c'est un bracelet avec tracker d'activité et fréquence cardiaque. C'est-à-dire que, à chaque fois que vous allez courir, faire du sport, vous allez pouvoir faire un bilan et améliorer vos performances grâce aux indications que vous donnera le bracelet. Et alors, le deuxième cadeau, c'est Isabelle qui va vous le donner. Je pense que ça va vous faire sourire.
À l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, RTL offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne cette semaine un lot de chocolat Jeff de Bruges. Chaque lot contient les meilleures recettes gourmandes Jeff de Bruges.
Bon, vous aviez arrêté le chocolat, mais vous allez peut-être pouvoir faire une entorse,
non ? Ça, c'est vraiment pas bien. Non, mais vous, ça, vraiment, c'est mal. Non, mais c'est un sadique, et il vous offre des chocolats, vous n'avez pas le droit d'en manger. C'est vraiment pas bien, quoi.
Mais
il est comme ça, il y peut rien, il est méchant. C'est pas sa faute, il est méchant.
Ah là là, c'est juste extraordinaire.
Bon, merci, Cédric.
Merci beaucoup.
Non, vraiment, merci de votre joie de vivre, et n'hésitez pas, si l'enfance a posé encore quelques problèmes, vous pouvez vous allonger avec nous sur un divan, et on vous écoutera tous les jours, Cédric.
Mais je vous écoute déjà tous les jours.
Bon, c'est gentil.
Et
vraiment.
Ça fait du bien.
Bon, merci. Merci de votre bonne humeur, en tout cas, Cédric. Laurent Tessier, tous les jours à cette heure-là, on donne le programme du 14h-14h30.
Oui, les fêtes clandestines se multiplient en France. Plusieurs ont eu lieu ce week-end à Strasbourg, Nantes, mais aussi Marseille.
Oui, lumière fluo, DJ, drogue, alcool, samedi soir, 500 fêtards sont réunis dans cette salle de Marseille. 150 € l'entrée pour deux personnes avec une bouteille. Ce prix, digne des boîtes de nuit les plus chics, n'a semble-t-il pas refroidi les convives. Fin de soirée, vers 1h30 du matin, l'arrivée de la police avec des dizaines d'amendes distribuées.
Et Alexandre nous a contacté au 3210. Il a participé samedi dernier à une soirée clandestine.
Si on vous donne pas la liberté, d'une manière générale, il faut la prendre. On est chez les fous, quoi. Samedi, on était moins nombreux que celle que vous disiez, on était peut-être 150. C'est un peu le dernier endroit où les gens sont encore heureux, quoi. Il y a beaucoup de bienveillance, les gens de tous horizons, de toutes tendances politiques. Si vous voulez, il y a des gens d'extrême droite, d'extrême gauche. Il n'y a pas eu de contrôle. Il faut s'autoriser à être heureux, en fait.
Alors, les jeunes sont-ils inconscients? Les sanctions doivent-elles être plus sévères? Faut-il rouvrir les boîtes de nuit pour encadrer tous ces fêtards? Avec nous à 14h, le professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine.
Notre fil rouge, vous l'avez compris, c'est Alexandre. Et il sera là encore après la pub parce qu'il y a Anne quand même. Il y a des défenseurs d'Alexandre. Donc, il va pouvoir intervenir. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que depuis 13h, on est avec Alexandre. Et qu'Alexandre, il a 28 ans, il a participé à une rave party samedi soir dans un endroit isolé. Il y avait 150 personnes et évidemment, il y a risque, entre guillemets, de cluster. Et Alexandre, d'ailleurs, il a appelé le 3210. Hein. Il a appelé, il est tombé sur Olivier. Olivier, aujourd'hui, fait partie des gens qui accueillent avec Pierre-Louis, avec Cyranouche et avec Evan. On les remercie parce que ce sont eux les premiers qui écoutent les auditeurs. Alexia est là. Bonjour Alexia, vous êtes étudiante en droit, vous avez 20 ans. Et alors, vous êtes révoltée parce que vous n'aviez pas prévu de nous appeler, mais vous avez entendu le témoignage d'Alexandre et vous avez quelques mots à lui dire.
Oui, bonjour déjà. Et
bonjour.
Oui, donc, je suis profondément scandalisée par les propos d'Alexandre qui puisse s'afficher comme ça et dans un calme olympien pareil, parce que je me demande à quel moment il pense à toutes ces personnes qui voient leur opération reportée, par exemple pour les personnes atteintes de cancer ou les personnes avec opération cardiaque. J'ai vu passer des articles comme quoi une personne avait vu son opération reportée deux fois et elle est finalement morte. Je trouve ça scandaleux qu'il puisse dire qu'il faut aller chercher la liberté si on ne la donne pas. La liberté de vivre de ces personnes qui dépendaient de cette opération qui est reportée à cause du système encombré par les cas de coronavirus, il en fait quoi? Moi, ça me choque. Je sais que c'est peut-être fort ce que je vais dire, c'est exagéré, mais c'est pour frapper. Mais moi, je trouve que les personnes qui volontairement font des soirées provoquant peut-être plein de clusters, sont responsables de la mort de tous ceux qui voient leur opération reportée parce que le système est encombré.
Convenons que c'est un peu exagéré quand même votre argumentation. En tout cas, qu'est-ce qui est exagéré, c'est de considérer qu'Alexandre est responsable d'une opération reportée, forcément. Et ces arguments, on les entend d'ailleurs dans la séquence que nous vivons depuis de nombreux mois. Et j'ai envie de dire, ça clôt le débat, parce que si vous dites à quelqu'un, vous êtes responsable de la mort de ma grand-mère ou d'un ami ou même d'une personne que vous ne connaissez pas, c'est difficile après de continuer la discussion.
Bah oui, mais toutes ces opérations reportées le sont. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas de Covid. Si on les provoque, on est quelque part en partie, pas totalement, c'est sûr, mais en partie responsable.
Alors Alexandre, pour tout vous dire,
suis de retour.
Voilà, il est de retour. La ligne était coupée, c'est pour ça que je répondais à votre place, si j'ose dire. Mais vous avez entendu ce que dit Alexia. Au fond, vous êtes responsable de mort. Voilà, c'est ça qu'elle vous dit.
J'ai entendu une partie. Si vous voulez, on sait très bien que 50% des décès, c'est des gens de plus de 85 ans. Les 50% qui restent, c'est très très triste, mais c'est des gens qui déjà, pour l'immense majorité, ont des comorbidités. Si vous voulez, moi j'ai des parents qui sont assez âgés, enfin qui ont plus de 70 ans. Alors en effet, quand la semaine qui suit une rêve, je vais pas les voir, quoi. Et je suis chez moi, je suis en télétravail et confiné. Évidemment, je vais pas aller tousser sur une petite grand-mère après en sortant de rêve. Par contre, non, je pense pas que ce soit à cause de gens comme nous qu'il y a ces reports. En réalité, c'est pas. Il y a 99,7% de chances de ne pas en décéder du Covid. Et c'est pas moi qui le dis, quoi. Donc il y a un moment où c'est pas les jeunes qui font flamber les cas. Non.
Je vais vous remercier, Alexandre, parce que vous avez pu apporter à chaque fois des réponses. Je vais rester quelques secondes encore avec Alexia. Je remercie vraiment Alexandre qui était là avec nous depuis un petit moment. Alexia, en revanche, vous avez le sentiment que les gens que vous croisez sont dans le même état d'esprit que vous, sont aussi, entre guillemets, radicaux que vous, et appliquent à 100% le protocole ou les recommandations, ou vous avez le sentiment contraire?
Ah non, j'ai le sentiment contraire. Je suis à la fac, donc on a des groupes avec toute la promo, et je vois bien que plein de gens parlent de soirée, disent qu'ils vont en soirée, qu'ils se retrouvent et pas à moins de 6.
Et vous jamais ?
Non, je suis confinée. Depuis le début, je vois que mes parents et ma petite sœur.
Mais vous ne faites pas un écart au fond, pourquoi ? Parce que vous avez peur pour vous-même ? Parce que vous avez un sentiment de solidarité avec, la nation ? Parce que c'est le sens de responsabilité qui vous dicte cela ?
Parce que je pense qu'on a, on a tous une part de responsabilité là-dedans. On doit tous faire attention. On est une société, on n'est pas tous des petits égaux individuels. On vit tous ensemble, on doit faire attention à tout. Enfin, je ne dis pas que c'est possible et qu'on doit tous, agir de manière très restreinte. Mais je pense qu'on devrait tous avoir une pensée pour tous les gens qui... imaginez-vous, vous êtes malade, vous recevez un appel comme quoi l'opération qui vous permettait de vivre est reportée.
Mais non, mais j'entends vos arguments, c'est pourquoi j'essaye de comprendre et j'entends ce que vous dites. Vos parents sont comme vous, vous avez le sentiment d'avoir été élevé comme ça, et votre petite sœur aussi est comme vous, c'est quelque chose que vous avez toujours entendu dans votre famille.
Oui, mes parents m'ont élevé dans le respect des règles, et puis avec de l'empathie, de se mettre à la place des autres, et je trouve que c'est ce qui manque actuellement.
Et vous avez le sentiment qu'en adoptant ce comportement, c'est la meilleure manière, effectivement, d'être dans la continuité de l'éducation que vous avez reçue, et d'être ce qu'il faut faire vis-à-vis des uns et des autres.
Oui, je pense, parce que de toute façon, les vaccins ne sont pas encore là. La seule façon de stopper le virus, c'est de réduire les moyens de transmission. Et pour réduire les moyens de transmission, il faut réduire le contact avec les autres. C'est triste. Moi aussi, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de voir mes copains, mais je pense à la situation globale, aux gens en situation de faiblesse, et je me dis que c'est ce qu'il y a à faire là, maintenant, tout de suite.
Bah merci vraiment Alexia, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites, et ça fait partie du charme de cette émission d'avoir des avis très différents. Alors j'avais annoncé Anne tout à l'heure, et Anne elle va défendre d'une certaine manière ses rêves partis. Je voudrais qu'on parle de Gérard Houllier également, parce que c'est un entraîneur qui a marqué le foot français. Ils ne sont pas si nombreux les entraîneurs qui ont gagné une Coupe d'Europe à l'étranger. Ils sont même, ça se compte sur les doigts d'une main. Et il en fait partie, Gérard Houllier. Et puis, si vous souhaitez également parler du dépistage massif, manifestement, ça ne vous fait pas beaucoup réagir pour le moment. Ou tout autre sujet, bien évidemment. 13h47, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Un mot de Anne. Bonjour Anne.
Oui, bonjour, voilà.
Qui est là depuis un moment.
J'ai, bah écoutez, aussi bien que je parte, que je passe après, alors je crois que c'était Alexia.
Oui.
Moi j'ai 54 ans, je suis fille de militaire, mes parents m'ont donné le coronavirus, ils ont 88 ans, et qui m'a été transmis, bon moi j'étais pas à risque a priori, mais j'ai une fragilité ORL, et mon père il l'a eu, j'ai essayé de recouper, en allant dans un, je vais pas citer l'enseigne, mais dans un supermarché. Et n'étant pas si lui-même soigné de lavage des mains, bon, moi, j'ai attrapé. C'est pour ça, je rappelle ça qu'on est en train de dire les jeunes transmettent aux personnes âgées. Moi, c'est l'inverse qui s'est produit. Et secondo, bon, j'ai quand même 54 ans, il y a encore 3 ans, il m'arrivait d'aller, comme Alexandre, danser dans des fris ou rêves, comme on appelle
dans
ça.
Dans une rêve?
Oui, bien sûr.
Ah, et
il a oublié de dire, moi, j'ai croisé. Alors, c'était pas une frie, puisque.
Une frie, c'est quoi une frie?
Bah, moi, je mettrais la différence, rêve, c'est le son qui est pas tout à fait le même. Moi, je suis pas fan de la tribe, ce qu'on appelle. Et, dans les frites, la musique électro est plus, entre guillemets, de mon point de vue, plus variée. Mmh. Bon, mais ça, c'est des détails, hein. C'est,
ah oui, mais je connaissais pas ce qu'est une frite.
Bah, 120 BPM, en fait, c'est des histoires de battements par minute. Mais ce que j'ai dit à votre très charmant assistante, la danse, ce n'est pas juste un plaisir. J'ai cité Nietzsche, qui pensait que ce qui manquait aux philosophes, c'est de savoir danser. Mandela, on l'a admiré pour sa... C'est un rôle social de la danse. Et je disais, le roi danse, c'est Louis XIV.
Mais on n'est pas obligé de danser à 150 en même temps. On peut danser, si vous voulez, on peut danser à 5.
Attendez, non, ça, vous ne pouvez pas. Ah c'est bon, l'évolution de la danse. D'ailleurs, je suis en train de penser. J'ai un super bouquin là-dessus, l'évolution, la valse à un moment révolutionnaire. Là, je suis un peu émue, donc je ne vais pas trouver de nom. Normalement, je pourrais vous le citer, c'est un sociologue, puisque la jeune femme étudiante en droit. Bon, moi, j'ai fait Sciences Po pour recadrer, vous voyez, et je suis prête à défendre des personnes comme Alexandre, parce que la danse, c'est un... C'est un lien social. Alors, j'ai une idée pour résoudre le problème des flics. C'est avoir des casques de silent party. Alors, c'est un homme...
Les casques des... Pardonnez-moi, je n'ai pas compris.
Des silent parties. Comme ça, on peut danser.
Des silent parties.
Parties. On n'est pas obligé de se regrouper au pied des enceintes du son, puisque c'est le principe.
Chacun a un casque, en fait, dans les salles. Voilà, ah ouais, ça, voilà. Alors ça, c'est très étrange, là, tu vois.
Mais non, mais ça, c'est génial. Ça permettrait de continuer à faire ses cris à distance, à plus d'un mètre. Mmh. Et je vous avoue, Pascal, que moi, je suis presque réjouie du coronavirus. Il faut réfléchir aux autres soirées. Moi, je n'y allais plus, parce que, pourtant, il y a un respect total. Et souvent, c'est plutôt dans les salles de concert que je me faisais piétiner. De par mon âge, qui peut paraître un peu, voilà, je danse beaucoup. Et en fait, je me disais, ce coronavirus va peut-être obliger les gens à respecter une certaine distance. Puisque moi, j'ai besoin d'un espace pour danser. Ça, c'est, comme on dit, parenthèse ouverte. Mais il a raison de... Je comprends déjà l'argument d'Alexia, mais qui ne sont même pas fondés. Moi, j'ai eu plus de respect dans ces free parties, puisque je vous dis, je suis pas fan de la traîne des rêves en général. Mais il y a plus de respect, en tout cas dans toutes celles auxquelles j'ai participé. Elles étaient très bien organisées. Respect des forces de l'ordre. Je suis fille de militaire. Je suis élevée comme Alexia.
Non, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, simplement, c'est la transmission du virus. Mais
regardez, Pascal,
j'hésite
regardez.
Toujours, moi, à être dans une position de donner des leçons. C'est pas mon tempérament, pour le coup, de dire vous devriez faire ça, vous devriez faire ça, etc.
La transmission, déjà dehors, c'est limité.
C'est vrai, c'est vrai. Et ça, j'entends cet argument. J'entends cet argument.
Dans un supermarché.
Oui, j'entends cet argument. Bon, merci Anne, en tout cas. Et comme il nous reste 5 minutes, simplement, je voulais qu'on parle de Gérard Houllier. Et on va peut-être être avec Grégory, parce que Grégory, vous êtes parisien. Et Franck, peut-être d'abord. Alors, Franck, qui habite la Mayenne. Oui. Gérard Houlli est mort, et c'est vrai que... Alors, c'est une année difficile pour...
Oui, difficile. Hein.
Oui, Michel Hidalgo, Robert Herbin, c'était des grands noms du
Maradona.
Foot français. Alors, Maradona, bien sûr.
Ouais. Oui, oui, ça fait drôle, parce que j'ai entendu ça ce matin, ça m'a vraiment fait un choc, parce que Gérard Houlli, on n'entendait pas depuis quelque temps, je sais qu'il était parti se repérer, mais en parlant de lui, c'est un technicien, franchement, il a sorti des bons joueurs, faut pas l'oublier. Bon, il a entraîné Lyon, il a entraîné Liverpool, il a été quand même champion d'Europe avec Liverpool, il a gagné la Cup aussi avec Liverpool, il a sorti des bons joueurs, je sais pas si à cette époque-là, Benzema, il l'a connu, mais s'il l'avait entraîné. Mais Juninho, il me semble qu'il l'a entraîné aussi. Il a entraîné des bons joueurs. Il a eu malheureusement l'époque qu'il était avec Michel Platini contre la Bulgarie. Je pense que ça l'a pas malheureusement pour lui. Mais franchement,
c'était plus avec Michel Platini là. Hein. C'était en 93 parce qu'en 13. Fait, il avait pris la succession de Michel Platini à l'Euro 92. Oui. Et il fait cette campagne qui était une réussite totale d'ailleurs hein, de l'équipe de France, sauf les deux derniers matchs, France-Israël et France-Bulgarie.
France-Bulgarie, voilà, qu'on prend le dernier but, un but, voilà, on s'en souviendra toujours, je m'en souviendrai toujours, ça c'est clair.
Ça c'est sûr.
Mais... Oui, on peut pas l'oublier, mais c'est vrai qu'on perd, voilà, on perd encore un super entraîneur et un mec que j'ai toujours bien estimé, même qu'il était à Lyon et avec comment il s'appelle, Monsieur Olas. C'est vrai que, mais on n'entendait jamais parler de lui, il faisait son petit truc. C'est vrai que là-dessus, c'était un bon entraîneur. Et moi, je l'ai vu déjà quand il était venu à Rennes contre Rennes et Lyon. C'est vrai que oui, c'est quelqu'un qui, voilà. Malheureusement, voilà, on en perd et ça fait beaucoup quand même, je trouve. En une année, ça fait quand même beaucoup. Et voilà, il faudra surtout pas l'oublier, voilà. Et j'espère que ils ont appelé le stade de Lyon. Est-ce qu'ils vont pas le remettre et qu'ils vont peut-être pas l'appeler Gérard Houlli? Je sais pas. Voilà, c'est peut-être un truc qu'ils pourraient peut-être faire. Je sais pas. Voilà.
En tout cas, Zidane a gagné une Coupe d'Europe comme entraîneur français. Oui. Luis Fernandez a gagné une Coupe d'Europe
avec Paris.
Gérard Houlli a gagné une Coupe d'Europe et c'est quasiment tout.
Oui. Non, donc, on n'a plus d'entraîneur qui avait gagné.
Puisque Arsène Wenger n'a jamais gagné une Coupe d'Europe. Hein, on le rappelle. Alors parfois, on cite ce Elenio Herrera qui a la double nationalité argentine et française. C'est pour ça qu'on dit quatre entraîneurs. Parce qu'il avait gagné avec l'Inter Milan. Mais convenons qu'Elenio Herrera est dans le cœur des Français, sa nationalité est peut-être française, il avait la double nationalité, mais il est d'abord effectivement perçu comme un entraîneur étranger. Ben merci beaucoup, Franck, merci.
Et une pensée pour la famille, Gérard Houlli, parce que franchement, et à l'équipe lyonnaise aussi, parce que même moi qui suis supporter de Rennes, et voilà, il faut avoir une pensée aussi pour Lyon aussi. Parce
qu'il a été hospitalisé il y a trois semaines, en fait, c'est déjà un miraculé, Gérard Houlli, parce qu'en 2001, pendant un match de Liverpool, il avait une attaque terrible. Et c'est une histoire extraordinaire, parce qu'il a été sauvé quasiment par un enfant de 7 ans qui était le fils du chirurgien, puisque quand il est arrivé à l'hôpital, il était quasiment en état de mort. Et le chirurgien a été prévenu et il a dit « je me déplace pas parce que le cas est désespéré ». Et ce serait le fils du chirurgien qui avait 7 ans qui a dit à son père « vas-y, c'est l'entraîneur de Liverpool, le petit enfant était supporter de Liverpool, il adorait le club », qui a obligé son père à venir, à aller à l'hôpital et a donc sauvé, au terme d'une opération de 13 heures, je crois, qui a sauvé en 2001 Gérard Houlli. Et cette histoire est vraie. C'est pas un roman. Cette histoire est authentique et souvent Gérard Houlli l'a raconté. Pensez pour lui, pensez pour sa famille, pensez pour tous les Lyonnais, pour Luis Fernandez. Et puis moi, je pense à Alain Cézac, puisque Alain Cézac a été longtemps le président du Paris Saint-Germain. Je sais qu'Alain Cézac doit avoir beaucoup de peine aujourd'hui, parce qu'il était très lié à Gérard Houlli. Le Flash, et nous continuons sur les fêtes sauvages. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
14h pile. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Du rugby et le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde 2023. Elle aura lieu en France. Alors, les Bleus ne connaissent pas encore tous leurs adversaires, Jean-Michel Rascol, mais il y en a déjà un de taille et c'est la Nouvelle-Zélande.
Effectivement, la Nouvelle-Zélande qui sera sans doute l'adversaire de la France lors du match d'ouverture le 8 septembre 2023. Il y a encore une petite incertitude sur le programme. Toujours est-il que la certitude, c'est que la Nouvelle-Zélande sera bien dans la poule de l'équipe de France avec l'Italie, une équipe nord-américaine et une équipe africaine. Donc les Blacks, un triple champion du monde, auront rendez-vous dès le premier tour de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Un tirage au sort précédé d'un message d'Emmanuel Macron. Ramenons la coupe à la maison, a dit le président. Cette fois, la Coupe du Monde 2023 est bien lancée.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. En football, on connaît le prochain adversaire de Lille en Ligue Europa. Ce sera l'Ajax d'Amsterdam en 16e de finale. Et puis en Ligue des Champions, le PSG retrouvera le FC Barcelone en 8e de finale. Les Parisiens qui soufflent tout de même cet après-midi après des examens médicaux rassurants pour Neymar. Le Brésilien touché hier à la cheville souffre d'une entorse. Le Paris Saint-Germain qui fait part de sa tristesse, son ancien entraîneur Gérard Houllier est mort. C'est lui qui avait conduit le club vers son premier titre de champion de France en 1986. Il avait aussi été à la tête de Lyon, de Liverpool et de l'équipe de France. Gérard Houllier s'est éteint à l'âge de 73 ans. Des campagnes de dépistage massif lancées aujourd'hui au Havre et à Charleville-Mézières. La promesse, des tests rapides, gratuits et sans rendez-vous jusqu'à vendredi. L'objectif, évidemment, juguler l'épidémie avant les fêtes. Le quintet, il se courait à Cagnes-sur-Mer. L'arrivée provisoire, le 4, le 13, le 6 ou le 7, puis le 8. La météo demain, de la pluie des Pyrénées et du Languedoc au nord et au Grand Est en passant par le bassin parisien. Ces pluies, elles vont progresser lentement vers l'est tout au long de la journée et se renforcer sur les Cévennes, sur le sud du Massif central aussi, avec localement des orages. Les températures demain après-midi comptaient 8 à Strasbourg, 11 à Paris, 15 à Perpignan et 16 à Ajaccio.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et parmi les questions qu'on va se poser maintenant, faut-il rouvrir les boîtes de nuit ?
Mais aussi Marseille.
Oui, lumière fluo, DJ, drogue, alcool, samedi soir. 500 fêtards sont réunis dans cette salle de Marseille. 150 euros l'entrée pour deux personnes avec une bouteille. Ce prix digne des boîtes de nuit les plus chics n'a, semble-t-il, pas refroidi les convives. Fin de soirée, vers 1h30 du matin, l'arrivée de la police avec des dizaines d'amendes distribuées.
Et Alexandre nous a contacté aujourd'hui au 3210. Il a participé samedi dernier à une soirée clandestine.
Si on vous donne pas la liberté, d'une manière générale, faut la prendre. On est chez les fous, quoi. Samedi, on était moins nombreux que celle que vous disiez, on était peut-être 150. C'est un peu le dernier endroit où les gens sont encore heureux, quoi. Il y a beaucoup de bienveillance, des gens de tous horizons, de toutes tendances politiques. Si vous voulez, il y a des gens d'extrême droite, d'extrême gauche. Il n'y a pas eu de contrôle. Faut s'autoriser à être heureux.
Les réactions se sont enchaînées au standard après le témoignage du jeune homme de 28 ans.
Liberté, ça veut dire que vous êtes en droit d'enfreindre les lois. Ça veut dire que si la route est limitée à 80, vous avez le droit de rouler à 150. Comment sous la liberté et le respect des autres?
Je suis profondément scandalisée par les propos d'Alexandre. Je trouve que les personnes qui volontairement font des soirées provoquant peut-être plein de clusters sont responsables de la mort de tous ceux qui voient leur opération reportée parce que le système est encombré.
Alors comment empêcher ces soirées clandestines? Peut-on vraiment le faire? Le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, s'était exprimé début août sur RTL.
Qu'est-ce que vous proposez pour empêcher des rêves parties dans le bois de Vincennes avec 4000 personnes? Pour empêcher qu'ils se réunissent sur les bords de Seine, sur les quais de Loire, à Nantes ou à Angers ou ailleurs? Ce n'est pas moi qui dis de laisser faire. Moi, je constate le laisser faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Regardez comment ils se comportent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez envoyer l'armée?
Chaque participant à ces soirées clandestines se voit remettre une amende de 135 euros pour non-respect du confinement. Alors, faut-il durcir les sanctions, mettre des amendes beaucoup plus sévères? Les jeunes sont-ils inconscients? Attention à ne pas généraliser pour le professeur Philippe Juvin.
Nous sommes crevés, je veux dire, on est usés, ça fait depuis le mois de mars qu'on est au front. Simplement, ce n'est pas parce qu'il y a 300 gugus qui font n'importe quoi et une fête débile, c'est vrai, que le reste de la population doit être sanctionné. Les Français ne doivent pas être infantilisés et ce sont des gens responsables.
Autre question, la solution passe-t-elle par la réouverture des boîtes de nuit? C'est le combat de Jean Roch, il avait alerté sur RTL début juillet.
Des fêtes sauvages qui ont lieu tous les week-ends dans les appartements, qui encadre ça? Qui encadre dans les maisons? Qui encadre sur les bateaux? Qui encadre cadre toutes les fêtes privées qui dépassent parfois 200 ou 300 personnes. Qui mieux que nous peut accompagner cette clientèle? Qui a autant d'expérience que nous pour pouvoir protéger cette clientèle et protéger les gens au service?
Alors, faut-il rouvrir les boîtes de nuit pour encadrer tous ces fêtards? Avez-vous de la peine pour tous ces jeunes qui ne peuvent pas s'amuser en ce moment?
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
Et oui, avec nous en studio, le professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine.
Bonjour.
Bonjour monsieur Buisson, et c'est à l'épidémiologiste que je vais demander de répondre à Jean-Marie, qui est président de l'association exploitant discothèques de Loire-Atlantique, de la Loire plus exactement. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Pascal.
Les boîtes de nuit sont fermées, vous êtes en colère. J'ai envie de dire, faites-vous l'avocat d'une réouverture, Jean-Marie.
Écoutez, on a tenté d'empêcher les jeunes de faire la fête, dont on leur a pris leurs 20 ans, mais bon, c'est complètement illusoire. Ils ont un sentiment d'invulnérabilité qu'on peut pas gérer, ils sont là, et puis c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'ils se comportent de telle manière. Nous, on a des établissements depuis des années. Dans mon cas personnel, ça fait 35 ans que je gère ce type d'établissement. On a des protocoles sanitaires en place, on a des agents de sécurité qui sont formés. C'est un ERP, donc un établissement qui reçoit du public. On a un cahier des charges qui est assez important. On a un recyclage de l'air qui se renouvelle toutes les 4 minutes. C'est exactement comme dans un avion. Alors au niveau des aérosols, on peut gérer la capacité de l'établissement avec une jauge moins importante. On peut arriver à diminuer ou à supprimer les pistes de danse. Je vous en avais parlé au mois de juin. Bon, ça avait fait rire beaucoup de gens, mais bon, on en est là, quoi. On a plein de choses à mettre en œuvre, mais seulement.
Alors Yves Buisson vous répond, est-ce que les arguments que donne Jean-Marie sont écoutables, sont audibles? Ce que nous dit au fond Jean-Marie, c'est que le virus ne passe pas dans sa boîte de nuit.
J'ai du mal à admettre ces arguments. Une boîte de nuit, c'est obligatoirement un espace clos dans lequel un certain nombre de personnes vont se réunir, proches les unes des autres, pendant plusieurs heures, même s'ils portent le masque, ce dont je doute. Peut-être le porteront-elles au début, mais rapidement, les masques vont tomber. Donc, c'est des endroits qui réunissent la plupart des facteurs de risque de transmission.
Mais l'air qui est renouvelé, par exemple?
Bien sûr, l'air peut être renouvelé, c'est bien, c'est bien. Si on peut ouvrir les fenêtres, s'il y en a, on peut limiter le nombre de personnes. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment réalisable? Enfin, l'air renouvelé, oui, c'est bien. C'est un facteur positif, c'est bien. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant dans la mesure, ici, dans le studio où nous sommes, l'air est renouvelé, mais nous sommes que deux ou trois maximum, et encore, on est à plus d'un mètre de distance et je porte un masque. Non, je crois qu'il faut arrêter. Bien sûr, tout le monde dit, on a rempli tout le cahier des charges. Bon, ce que l'on peut entendre chez les petits commerçants, ce que l'on peut entendre dans certains restaurants qui, effectivement, ont rempli toutes les mesures qui évitent complètement les possibilités de transmission du virus, ce que l'on peut entendre dans un certain nombre de salles de spectacle, et la plupart des salles de spectacle ont réalisé ces efforts, et les résultats sont là, je crois qu'il faut pas exagérer. Et en plus, tous ces établissements les restaurants, les salles de spectacle sont fermés.
Alors, donc pour les boîtes, ça vous paraît plus difficile. Voilà. 14h09, première pub de cette dernière demi-heure. Jean-Marie pourra peut-être vous répondre encore, parce que c'est là que c'est intéressant, parce que je comprends Jean-Marie qui n'a pas travaillé sans doute depuis le 13 mars. Oui, tous les gens de la nuit n'ont pas travaillé depuis le 13 mars. Imaginez-vous ne pas avoir un centime. Alors, il y a quand même des aides. Mais imaginez-vous ne pas pouvoir travailler depuis le 13 mars, pardon. Dans quel état psychologique seriez-vous? Et ça s'entend. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Alors Jean-Marie, vous avez écouté évidemment le professeur Yves Buisson qui ne trouve pas que ses arguments soient crédibles ou soient valables.
Oui, j'écoute, oui. Non, mais j'ai tout à fait compris. Je suis d'accord avec lui en partie. Mais bon, je me pose la question suivante. Ces jeunes vont aller où? On le voit où ils vont. ils organisent des fêtes. À droite, à gauche.
Bah, pas tous quand même, parce que ça, c'est un argument un peu fallacieux. Honnêtement, c'est fallacieux, ça. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en boîte de nuit ne vont pas, d'habitude, hein, ne vont pas organiser une fête à côté. Il y en a tout simplement qui ne vont rien faire, et même c'est sans doute la majorité.
Bon, alors on va parler de ceux qui font. Alors donc, on va parler des fêtes sauvages. Nous, ce qu'on propose, c'est de limiter la casse en disant, voilà, il y a des gens qui vont sortir, qui vont organiser des fêtes, qui vont faire n'importe quoi. Eh bien, nous, on est là pour ces gens-là.
Non, mais j'entends bien, Jean-Marie.
Pour leur proposer.
J'entends bien. Mais le geste barrière, ce que nous dit Monsieur Buisson est... C'est très compliqué les boîtes de nuit.
Bien sûr, c'est compliqué. On vit une époque compliquée.
C'est vraiment, oui, mais c'est autant. Je trouve que parmi tous les secteurs d'activité, au théâtre, on peut comprendre, dans un stade, on peut comprendre, dans un bar, on peut comprendre. Là, vous êtes, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué d'empêcher la circulation du virus, parce que les gestes barrières et le masque n'existent pas. Merci en tout cas, Jean-Marie, de votre témoignage. Merci. Rachida est avec nous. Rachida, qui est infirmière et qui intervient régulièrement sur notre émission, et qui souhaite, pourquoi pas, échanger avec le professeur Buisson. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Alors je reprécise, infirmière anesthésiste.
Infirmière anesthésiste, bien évidemment.
Merci. Voilà.
Je vous en prie.
Oui, alors moi je voulais, enfin j'ai pas écouté la personne qui a parlé des rêves parties, là, j'avais pris l'émission en cours.
Alexandre.
Mais moi franchement, je suis scandalisée par les fêtes clandestines, parce qu'il faut pas oublier, on va encore nous dire, il y en a encore que pour les hôpitaux et le personnel soignant. Là, on commence enfin un petit peu à souffler, il y a moins de patients hospitalisés Covid en réa. Moi je suis au bloc, je suis pas en réa en ce moment. Mais il faut quand même penser que tous ces jeunes là sont égoïstes. Ils nous disent on veut vivre, on veut sortir. Bah oui, bah nous aussi on aimerait bien sortir, aller danser, mais on fait attention. Et par contre ces jeunes, parce qu'il faut qu'ils fassent, tous ces gens qui organisent des fêtes clandestines, eh ben qu'ils aient un papier sur eux dans lequel ils nous certifient que si jamais ils ont le Covid, eh ben qu'ils laissent leur place à d'autres personnes qui eux ont pris toutes les précautions pour le Covid. Moi, je trouve ça... Moi, je suis scandalisée, Pascal. Vraiment, je trouve ça inadmissible. À chaque fois, on nous sort nos libertés, on a envie de sortir, on a envie de danser, on est jeune. Eh ben oui, mais là, on est dans une période critique. Il faut qu'on fasse des efforts. C'est pas possible. On va recommencer encore comme au mois de mars-avril? Non, c'est... Là, je pense que là, moi, je suis complètement scandalisée. Et vous savez, au bloc... Au premier confinement, il y a eu 2500 interventions reportées. Là, il y a des jeunes femmes qui étaient atteintes d'un cancer d'ovaire, qui ont été reportées deux fois. Et il y a une jeune femme de 30 ans, son cancer des ovaires a flambé. Voilà, donc là, on essaye de trouver des places pour les gens opérés des cancers ORL aussi. C'est des grosses cancéros, là, on est obligé de les omettre. Mais si vous voulez, là, il y a plein d'interventions qui sont décalées et reportées. Et tous ces gens sont égoïstes, ne pensent qu'à eux, qu'à faire la fête. Moi, ça me scandalise.
Yves Buisson vous répond.
Oui, je suis, Rachida, très contente d'avoir entendu votre témoignage, que je partage tout à fait dans le jugement que vous portez sur ces comportements. Vous parlez, bien entendu, de l'aspect hospitalier, qui est votre environnement quotidien, que je connais bien aussi. Mais on devrait aussi considérer tous les professionnels qui ont cessé de travailler, tous ceux qui sont en train de fermer boutiques, qui ferment les restaurants, qui ferment les petits commerces, et toutes les personnes qui entrent, toutes les familles qui entrent dans l'extrême pauvreté à cause de la Covid-19. Je crois que les jeunes là qui disent nous on a bien droit de s'amuser, si j'ai pas ma boum une fois par semaine, je pourrais pas tenir, etc. C'est effectivement, je partage votre jugement, un comportement égoïste. Et je vais même plus loin, c'est un comportement qui n'est pas citoyen et c'est un comportement qui n'est pas moral. C'est la moralité qui fiche le camp dans cette partie de la jeunesse. Je dis bien que c'est une partie, l'ensemble de notre jeunesse n'est pas comme ça, mais il y en a un certain nombre qui se comportent de façon absolument insupportable. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut que ce soit une forte répression qui dissuade de tels comportements.
Est-ce que l'épidémiologiste que vous êtes pense que le 20 janvier, les restaurants seront ou doivent rouvrir ?
Je l'espère très fortement, mais tout dépendra bien entendu de l'évolution de la courbe épidémique après les fêtes. Qu'est-ce que ça va donner ? Si les telles fêtes sauvages se multiplient, notamment à l'occasion de la Saint-Sylvestre, on n'est pas à l'abri de voir repartir ça et là.
Mais si on reste sur ce plateau, est-ce qu'on peut imaginer rouvrir, selon vous ?
Ah, si on reste au niveau du plateau actuel, je pense que c'est envisageable.
Mais alors pourquoi pas rouvrir aujourd'hui ? Pourquoi pas rouvrir aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une différence entre le 15 janvier et le 15 décembre si le plateau reste le même ?
Alors, oui. Parce que ce plateau, c'est quand même une période extrêmement indécise sur le plan épidémiologique. Ce plateau, il restera pas un plateau indéfiniment. Soit ça va descendre, tant mieux, ça voudra dire que les Français ont fait ce qu'il faut pour bloquer la transmission du virus, soit ça va remonter, et c'est ce que l'on craint le plus. Pourquoi ça remonterait ? Parce que les fêtes arrivent, et parce qu'il va faire de plus en plus froid. Enfin, sans doute, il va faire froid. Le virus adore le froid. Donc on peut craindre que les fêtes soient l'occasion d'un rebond épidémique.
14h18, il va rester encore une petite dizaine de minutes et nous continuons, nous concluons avec d'autres auditeurs. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h21, on est avec le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Il est avec nous, Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Pascal Pro.
Vous êtes infirmière, bonjour. C'est important de le dire, mais vous êtes une infirmière libérale, mais dans tous les sens du terme, parce que vous soutenez les jeunes.
Oui, je soutiens les jeunes, tout à fait, parce qu'on est en train de les montrer du doigt. Et je trouve que c'est pas bien, parce que dès qu'ils sont réunis à 10, quelque part, ça y est, on dit « mon Dieu, il y aura un cluster ». Voilà, ils peuvent plus s'amuser, ils peuvent plus aller au bar, alors que c'est les jeunes qui vont tous les 2-3 jours, là, tous les 3 soirs au bar, c'est pas les gens de 40 ans ni de 50 ans. Voilà, je pense qu'on est en train de les punir de quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà. Et vous savez que le midi, les jeunes, ils mangent par terre leur sandwich et leur pizza. Là, j'étais en ville.
Ça veut dire quoi, ils mangent par terre? Quoi, tous les jeunes ne mangent pas par terre?
Les bancs sont condamnés et à midi, les jeunes, ils mangent leur sandwich par terre, leur pizza par terre.
Ils la mettent pas par terre sur le goudron, ils se mettent en tailleur peut-être et puis ils mangent leur pizza dans...
Oui, voilà, quand ils sont dans les centres commerciaux, ils sont par terre. Les bancs sont condamnés et ils mangent par terre.
Les bancs sont condamnés ?
Oui, les bancs sont condamnés, oui.
Mais ça dépend où, parce qu'à Paris, tous les bancs ne sont pas condamnés.
Eh bien ici, si, dans le centre commercial, les bancs sont condamnés.
Vous êtes où ? Vous êtes à Nîmes ?
Oui, je suis à Nîmes. Ouais.
Ah, c'est pas malin si les bancs sont condamnés, ça c'est très étrange.
Voilà, ils mangent par terre, donc je ne sais pas où est l'hygiène. Moi je voulais dire qu'on est en train de taper sur les jeunes, et qui s'amusent. Je suis allée à un concert au Gypsy King cet été, mais je me suis amusée, quoi. C'était la fête.
J'ai peur que le professeur Buisson redise ce qu'il a dit tout à l'heure.
Oui, mais bon, est-ce que les clusters, est-ce que aux manifestations, il n'y en a pas de clusters ? On voit que le samedi après-midi, il n'y a plus de virus.
Yves Buisson.
Est-ce que le samedi après-midi, le virus circule encore ?
Pourquoi vous dites le samedi après-midi ? Je ne comprends pas.
À cause des manifestations.
Oui, d'accord. Excusez-moi. Donc les manifs, alors elles sont dehors effectivement, mais c'est vrai, vous avez raison, ça c'est aussi un argument que j'ai entendu. Oui. Yves Buisson.
Oui, je suis effectivement toujours sur la même position, puisque c'est une position dont on ne peut pas bouger lorsqu'on regarde les données épidémiologiques et quand on connaît un petit peu le virus, le SARS-CoV-2, qui circule partout en France, qui continue d'envoyer des gens à l'hôpital et certains à la morgue. C'est bien, je comprends très bien. On est tous passés par cet âge où on est insouciant, où on avait très envie de s'amuser, on a envie de faire la fête, on a envie d'aller danser, on a envie d'aller draguer. Enfin, c'est tout à fait normal. Tout le monde est passé par là et vraiment, j'ai pas envie de taper sur la jeunesse. Hein. J'ai des enfants, des petits-enfants et je suis très conscient de leur désir de profiter de la vie. Mais on traverse une crise extrêmement grave. La France en a traversé d'autres. Hein. Il y a eu des guerres. Eh bien, les jeunes qui allaient à la guerre, ils disaient pas on va enlever ma jeunesse, alors qu'on leur a enlevé même la vie souvent. Je crois qu'il faut être très solidaire face à cette lutte contre l'épidémie et que chacun doit jouer exactement la même partition, c'est-à-dire respecter toutes les précautions pour éviter la transmission du virus. S'il y a une partie de la France qui le fait pas, eh bien ça continuera de circuler et on aura encore les conséquences néfastes de cette épidémie pour plusieurs mois.
2-3 choses pour terminer, monsieur Buisson. Si le vaccin est en place à partir du 15 janvier, quand est-ce qu'on peut imaginer que cette épidémie disparaisse ?
Alors, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire. D'abord, on sait que les vaccins dont on va disposer au début sont des vaccins qui vont empêcher la maladie. Bon, déjà, c'est très bien, mais ça, on ne sait pas quelle sera l'efficacité de ces vaccins pour empêcher la transmission, ce qui est une autre qualité des vaccins qui ne sera peut-être pas la principale qualité des premiers vaccins dont nous disposerons. Donc, admettant que les vaccins soient aussi efficaces pour empêcher un peu la transmission, le temps qu'on vaccine au moins 50%, mais il faudrait un peu plus que 50%, 60 à 70% de la population pour pouvoir dire que ça y est, il y a un blocage par l'immunité collective, eh bien, ça ne sera pas possible avant l'automne 2021.
Donc on va vivre encore avec ces protocoles et avec, on l'espère pas d'ailleurs, ces stop and go, selon vous, durant une bonne partie de l'année 2021.
Oui, pendant laquelle on peut espérer effectivement que l'été aura, comme on l'a vu au cours de l'année 2020, un effet freinateur sur la transmission.
Merci Monsieur Buisson pour la clarté de vos explications et la pédagogie. Merci, c'est toujours un plaisir lorsque vous venez dans ce studio. Merci à Greg Caranoni, Flavie Flamand, dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.